Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui est Michel Husson, de l'Institut de Recherches Économiques et Sociales. Alors là, je n'y comprenais plus rien. Le dollar était trop faible, l'euro était trop fort. Avant, on me disait que l'euro était trop faible. Enfin bref, je n'y comprenais rien. Donc je suis allée voir Michel Husson pour lui demander de nous expliquer un petit peu les choses. Et voici donc la réponse qu'il m'a faite.
L'euro vient de récupérer le cours qu'il avait au moment de son lancement, au début, il y a 2-3 ans. Et il avait beaucoup baissé, à la surprise un petit peu générale, et il a récemment remonté. Mais en fait, d'une certaine manière, on peut dire que c'est le dollar qui bouge, quoi, et l'euro qui s'ajuste, quoi, parce que c'est lui qui donne l'impulsion. Et donc là, il y a une énorme question, c'est-à-dire que quand on reprend un peu de recul, le dollar a eu des fluctuations qui sont considérables, quoi. Par exemple, en 85 de mémoire, le dollar était monté jusqu'à 11 francs, puisque l'euro n'existait pas à l'époque. Donc c'est vraiment le sommet. Il est redescendu à quasiment à la moitié. Donc c'est des fluctuations qui sont considérables si on raisonne sur une période relativement longue. Alors que par exemple, si on prend les monnaies européennes entre elles avant de constituer l'euro, elles se sont mises à fluctuer dans un serpent, comme on disait à l'époque, de plus en plus étroit jusqu'à constituer une monnaie unique. Donc il y a un vrai mystère et qui est en grande partie compliqué à expliquer, mais qui tient au fait... Principalement, je pense qu'on peut dire ça comme ça, que les États-Unis sont la puissance dominante et que d'une certaine manière, ils peuvent faire avec leur monnaie des choses qu'aucun autre pays, aucune autre monnaie ne pourrait faire. Quoi. C'est-à-dire que si par exemple un pays quelconque en Europe aurait le déficit commercial abyssal qui est celui des États-Unis, qui représente aujourd'hui de l'ordre de 5% du produit intérieur brut, ce pays serait dénoncé comme gérant mal son économie, comme ayant une espèce de vivant au-dessus de ses moyens, et sa monnaie chuterait. Bon, sa monnaie serait extraordinairement déstabilisée par cette situation. Or, le dollar est une monnaie qui, d'une certaine manière, a déconnecté, enfin pas complètement, mais a déconnecté l'évolution de sa monnaie, du dollar, des fondamentaux, comme disaient les économistes, et des déterminations qui sont la règle pour n'importe quel autre pays, parce qu'il y a une relation complètement asymétrique. C'est-à-dire que on est en présence d'une monnaie dont l'évolution suit d'autres lois, ou disons échappe, se libère des lois qui règlent d'habitude l'évolution des monnaies, qui sont assez stable, c'est-à-dire qu'en gros, une monnaie est menacée chaque fois qu'un pays a un déficit commercial jugé trop important. Et si on prend par exemple les pays du Sud, pour prendre un exemple totalement inverse, toutes les crises financières qui ont pu se déclencher en Amérique latine, dans l'Asie du Sud-Est, ont pratiquement démarré par un creusement du déficit commercial qui rendait instable, disons, et qui jetait le doute sur la valeur de leur monnaie. Par exemple, l'Argentine, qui était justement indexée sur le dollar, a explosé quand on a considéré que son déficit et puis le mauvais comportement de son économie rendaient absolument plus crédible du tout cette indexation stricte sur le dollar.
Le déficit commercial, ça veut dire qu'il y a plus d'importations que d'exportations ?
Oui, exactement. Oui.
Et j'arrive pas à voir bien le lien entre le déficit commercial et l'évaluation d'une monnaie.
Ben, le lien est le suivant. C'est-à-dire que le déficit commercial, potentiellement, il implique qu'il y a des entrées de capitaux. Bon, ces entrées de capitaux financent ce déficit commercial, mais ils le financent dans certaines proportions. Hein, et il faut que ces entrées de capitaux soient confortées dans leur choix de financer ce pays. Et par exemple, pour reprendre l'exemple de l'Argentine, les capitaux ont cessé d'entrer, ou au Mexique, enfin, dans ce genre de pays. Les capitaux rentrent jusqu'à un certain point, attirés par des taux d'intérêt qu'on fait augmenter pour les crédibiliser leur placement dans ce pays. Mais à partir du moment où le déficit commercial devient trop important, la crédibilité disparaît, ces capitaux se retirent et précipitent la situation. Alors pourquoi il y a un lien entre le déficit commercial et la monnaie? C'est qu'en fait, la monnaie est une espèce de prix du commerce extérieur, et que quand il y a un déficit entre l'offre et la demande des marchandises du pays, on les ajuste en dévaluant de manière à rétablir, à rendre plus compétitif la situation de l'économie de ce pays. En gros, c'est une espèce de loi de l'offre et de la demande qui, avec beaucoup de parasites, si on peut dire, fait que fondamentalement, c'est la monnaie qui ajuste le déficit du commerce extérieur. C'est-à-dire que tendanciellement, c'est la valeur de la monnaie qui permet d'ajuster les deux.
Et quelle est la raison pour laquelle les États-Unis ont un déficit commercial si important?
Alors, ce déficit commercial, enfin, il n'a pas toujours existé, mais ce déficit commercial tient au fait que c'est une configuration relativement inédite. C'est-à-dire, c'est la puissance dominante, mais dans le passé, la puissance dominante, que ce soit par exemple l'Angleterre, etc., était au contraire exportatrice de capitaux. C'est-à-dire qu'elle avait un excédent commercial, et donc elle n'avait pas besoin de le financer par des entrées de capitaux, mais au contraire, cet excédent commercial signifie qu'elle avait des excédents de capitaux qu'elle plaçait à l'extérieur. Les États-Unis ont une espèce de situation qui est paradoxale, si on peut dire, à savoir que c'est la puissance dominante, mais une puissance dominante qui est déficitaire commercialement. C'est-à-dire que sa domination passe pas par sa capacité à dégager des excédents commerciaux. Disons par exemple, on pourrait opposer la puissance monétaire de l'Allemagne, enfin qui est d'une certaine manière un fait du passé, mais pendant tout un temps, on y reviendra peut-être par la suite sur l'Europe, mais la puissance dominante, monétaire de l'Allemagne était assise sur un excédent commercial considérable. Et le Japon aussi, qui a un excédent commercial important, cet excédent commercial a renforcé sa monnaie. Bon. Or, les États-Unis, d'une certaine manière, ont une capacité à s'extraire de cette détermination. C'est-à-dire qu'en gros, leur monnaie peut continuer à baisser ou à monter en fonction de leurs intérêts, et relativement indépendamment de la situation de leur commerce extérieur. Et en gros, la situation récente peut s'analyser de la manière suivante. C'est-à-dire que pendant un temps, jusqu'en gros 2001, le dollar a plutôt monté, s'est renforcé. Bon. Et parce qu'il y avait une capacité à drainer des capitaux qui était renforcée d'ailleurs par la crise financière en Asie du Sud-Est. C'est un mécanisme de repli des capitaux vers des endroits plus sûrs. Et donc il y avait une espèce de surpuissance qui faisait qu'avec des taux d'intérêt stable et jugé très stable, les capitaux affluaient, et il y avait une espèce de contrat au niveau mondial où le reste du monde, principalement le Japon et l'Europe, acceptaient d'une certaine manière de financer, enfin les capitaux qui émanant de ces régions, acceptaient de financer ce déficit parce que ce déficit était jugé d'une autre nature au fond que ça aurait été le cas dans une économie classique, quoi, une économie qui est censée, à moyen terme, ne pas avoir de déficit structurel.
J'arrive pas bien à comprendre pourquoi des gens acceptent de financer le déficit. Quel est leur intérêt? J'arrive pas à suivre.
Parce que la rentabilité qui est apportée à ces capitaux qui se placent est supérieure et disons à la fois supérieure et moins risquée, enfin un niveau qui est moins plus garanti que dans d'autres secteurs. Et donc c'est une image un peu de la financiarisation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de capitaux qui ont un comportement autonome, disons, de placement, et qui vont aller sur le marché des États-Unis acheter des bons du Trésor, parce qu'au fond, cette espèce d'énorme volant de capitaux de type spéculatif résonne en disant que c'est au fond aux États-Unis qu'il y a la plus grande sécurité et la meilleure rentabilité. Et d'une certaine manière, il y a une espèce de cycle vertueux qui fait que cet afflux de capitaux à financer l'investissement à l'intérieur des États-Unis, ce qu'on a appelé la nouvelle économie, et a fait remonter pendant un temps les bases objectives de la rentabilité, c'est-à-dire le taux de croissance, la rentabilité des entreprises, ce qui fait que ça auto-entretenait ce mécanisme. Alors que dans un autre pays, un pays disons dominé ou plus dépendant que les États-Unis, il y aurait eu au contraire un cercle vicieux qui serait mis en place, c'est-à-dire que le reflux des capitaux aurait ramené l'économie à une marge de croissance inférieure et une rentabilité moins importante et moins attractive, comme on dit, pour les capitaux.
Vous avez utilisé le mot de pont du trésor, si j'ai bien entendu. Qu'est-ce que c'est exactement cette chose-là ?
Ben, les bons du trésor, c'est ce qui est émis pour financer l'endettement public. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelait les déficits jumeaux, les twin deficits. Donc il y avait à la fois un déficit commercial important et un déficit budgétaire qui était extrêmement important et qui était financé par des émissions, disons, de bons du trésor qui était considéré comme un des meilleurs placements au monde. Et donc mais il n'y a pas que cette forme de placement, il y a aussi des placements financiers plus généraux. C'est-à-dire cette espèce de bouclage n'est possible que s'il y a une expansion des produits financiers qui permet d'absorber l'énormité des capitaux aussi. Quoi. C'est-à-dire il faut que, institutionnellement en somme, c'est aller de pair avec le développement des investisseurs, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement, c'est-à-dire ce qui, aux États-Unis, offrait, disons, un débouché à ces capitaux. Il ne faut pas non plus, non seulement qu'il y ait un besoin de capital, mais il faut aussi qu'il y ait les circuits dans lesquels ils puissent pénétrer et se diffuser dans l'économie.
Des sous et des hommes, toujours en compagnie de Michel Husson de l'Institut de Recherches Économiques et Sociales. On parle toujours du dollar faible, de l'euro fort. Et comme d'habitude, vous verrez, je vais encore poser une question en disant que je n'y comprends rien, ce qui a quand même le don de faire rire Michel Husson. Alors je dois avoir la comprenette particulièrement lente aujourd'hui, surtout parce que ça parle de monnaie. Mais j'arrivais très très bien à comprendre comment une monnaie pouvait être forte si effectivement il y avait un excédent commercial important, comme en Allemagne, comme vous le disiez tout à l'heure, enfin du moins avant la crise que l'Allemagne peut connaître actuellement. Mais franchement, j'arrive toujours pas bien à comprendre comment c'est possible pour les USA, avec un gros déficit commercial, comment ça se fait quand même que la monnaie soit forte, alors qu'on n'arrête pas nous pomper l'air, si je peux me permettre, avec le fait qu'il faut que le déficit en Europe soit inférieur à 3%. Enfin, j'arrive pas bien à comprendre la logique de l'affaire.
Parce que c'est l'économie dominante, c'est-à-dire que la loi, enfin un peu subsidiaire, c'est de dire si une économie a du déficit, ce déficit est toléré jusqu'au temps que les capitaux trouvent que c'est intéressant d'aller se placer dans ce pays pour combler le déficit. Quoi. Et en gros, ce qui a donné un semblant de durabilité, disons, à ce schéma, c'est ce qu'on a appelé la nouvelle économie. C'est-à-dire le fait que ces entrées de capitaux ont dopé l'économie des États-Unis au point où elle était considérée comme le moteur de l'économie mondiale et au point où on pensait tout à fait raisonnable d'aller se placer sur cette économie. Donc on avait un système, mais qui en fait restait complètement asymétrique. C'est-à-dire que...
Il se disait d'une certaine façon, certes, actuellement il y a du déficit, mais je place mes économies dans une économie qui est porteuse par l'intermédiaire de la nouvelle économie. Donc à terme, c'est pas grave, il y a peut-être des déficits, mais à terme, de toute façon, j'y retrouverai mes intérêts.
Oui, exactement. En plus, la rentabilité, si vous voulez, elle est d'autant... Tant que la monnaie est forte, la rentabilité est élevée, il n'y a pas de prime de risque. C'est-à-dire que ce qui menace, au fond, les gens qui placent dans un pays avec une monnaie plus fragile, c'est le risque d'une dévaluation, c'est-à-dire le risque d'une perte, disons, de rentabilité réelle, parce qu'on s'est placé dans une monnaie qui... Alors qu'avec le dollar, ce risque existe peu, et qu'en plus... Il y avait ce cercle vertueux, ça voulait dire que ces capitaux se plaçaient, finançaient un modèle où il y avait un vrai investissement qui générait apparemment des profits qui justifiaient, disons, ce déficit et donc justifiaient la croyance en des rendements importants. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est qu'il y a eu un changement. Il y a un débat sur les économistes pour savoir si c'est délibéré ou pas. Moi, je pense que oui. C'est-à-dire qu'il y a un changement clair de politique des États-Unis au sens qu'ils ont décidé qu'il valait mieux faire baisser le dollar, c'est-à-dire réduire un petit peu le déficit extérieur, parce que quand le dollar baisse, les produits américains sont plus compétitifs et donc regagnent des parts de marché et réduisent ce déficit commercial. En revanche, de manière symétrique, c'est très mauvais pour l'Europe, parce que ça veut dire qu'une monnaie, contrairement à le dogme monétariste, mais une monnaie forte, c'est-à-dire un euro qui remonte, est très mauvais pour le commerce extérieur européen. Et c'est plutôt cet effet qui l'emporte sur les effets favorables, du genre le pétrole coûte moins cher puisqu'il est payé en dollars, etc., et que le dollar baisse par rapport à l'euro. Bon, mais l'effet dominant qui l'emporte, c'est le dynamisme des exportations européennes qui est cassé, qui est très sensible à ce ratio, enfin ce taux de change entre euros et dollars. Donc les États-Unis, ce que ça veut dire, c'est que les États-Unis pensent que leur système était dérivé, que la nouvelle économie a plongé, donc cassé un peu le bel agencement de ce système, et que par conséquent, ils doivent changer un peu leur fusil d'épaule et commencer à essayer de récupérer des parts de marché en acceptant une baisse du dollar, quoi, y compris au prix de difficultés pour l'ensemble du reste de l'économie mondiale qui se voit concurrencée par un dollar en baisse. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça, parce que par rapport au yen, il y a eu notamment, fixer ça historiquement aux accords dits du Plaza, qui est le nom d'un hôtel de New York, je crois, c'est en 85, qui d'une certaine manière ont imposé, c'est une conférence entre les grands, enfin, style G7, qui ont imposé au Japon une espèce de surévaluation tout à fait conséquente de leur monnaie. Et donc, qui ont plombé le commerce extérieur japonais et permis aux États-Unis de récupérer un peu des parts de marché, y compris sur le dos de l'Europe, à l'époque où, dans ce cas-là, le dollar avait déjà dévalué de manière tout à fait significative, y compris par rapport aux monnaies européennes. Ensuite, il est remonté, en gros, donc c'est la nouvelle économie, donc il y avait d'autres moyens de justification, et il redescend, parce que la nouvelle économie a stagné, ou a montré qu'elle n'était pas un régime durable, et donc on baisse le dollar pour être compétitif de manière plus classique, en somme. Et donc, on reporte, en gros, sur le reste du monde, les risques de récession. Et c'est ça qui est le plus clair dans la conjoncture européenne actuelle, c'est que il y a les sources internes, disons, de faible croissance, auxquelles se rajoutent des sources externes, c'est-à-dire l'étouffement des exportations liées à un taux de change défavorable.
Mais quand vous dites les États-Unis ont décidé de dévaluer, est-ce qu'on peut dire réellement que ce sont les États-Unis? Est-ce que c'est pas plutôt le jeu du marché normal?
Mais c'est un peu le débat, c'est-à-dire qu'il y a un double débat. Il y a un débat qui consiste à dire est-ce que c'est délibéré, etc. Et ça, il y a des éléments sur la politique de la banque de réserve, c'est-à-dire le fait qu'ils laissent des taux d'intérêt très bas et inférieurs à ce qu'il y a en Europe. Ça veut dire, c'est un message, un signe, enfin un objectif, consistant à dire on a choisi de ne pas défendre le dollar. Parce que ça veut dire qu'on accepte que le dollar soit moins attractif et donc qu'il baisse pour cette raison. S'ils avaient voulu défendre la monnaie, il fallait que la Banque fédérale remonte le taux d'intérêt, qui est quasiment à 1%, quelque chose, enfin qui est un niveau très bas aujourd'hui. Donc c'est ce signe qui permet de dire qu'ils acceptent, en tout cas, de laisser... Alors que évidemment, il y a le marché qui détermine en dernière instance, mais il n'y a pas de contre-feu et on laisse la dérive s'installer, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément, c'est que du côté européen, et ça c'est plus grave du point de vue européen, enfin c'est que du côté européen, effectivement, il n'y a pas de repère sur quel serait le bon taux de change. C'est-à-dire qu'il y a un discours très contradictoire quand vous lisez, y compris certains grands quotidiens du soir. Il y avait un numéro, il y avait une page qui se réjouissait de la reprise du renforcement de l'euro, ça c'était la page financière, et puis la page économique, on disait que c'était très mauvais pour les exportations, pour l'industrie. Donc il y a un effet comme ça, du coup on ne sait pas quel est le bon compromis entre ces aspects positifs et ces aspects négatifs, et fondamentalement ça révèle un creux dans la construction européenne, à savoir que la Banque Centrale Européenne n'a pas au fond de cible en ce qui concerne le taux de change vis-à-vis du dollar, et ça c'est un point très faible qui laisse ouvert la possibilité que les États-Unis, qui ont quand même la maîtrise de ce taux de change, reportent sur l'Europe le poids, disons, les tensions récessives pour se garantir les conditions de leur propre croissance.
Est-ce que, de toute façon, est-ce qu'il y aurait une bonne raison pour laquelle les États-Unis devraient être particulièrement coopératifs avec l'Europe en particulier et le monde d'une façon générale?
Ben, il y a plein d'excellentes raisons pour lesquelles ils pourraient le faire. C'est-à-dire que, parce que fondamentalement, ça installe un fonctionnement très chaotique. Il n'y a qu'à voir le Japon. Le Japon, c'est le modèle. Bon, et notamment pour cette raison, c'est pas la seule, mais notamment pour cette raison, il y a un aspect qui est un enfoncement, un enlisement du Japon. Et au fond, d'une certaine manière, l'Europe est menacée par un modèle à la japonaise de ce point de vue-là. Et il y a une volonté, il y a une absence plutôt de volonté de coopération. Et notamment, c'est ce qui s'est traduit à Évian, où il y avait en filigrane cette question, et fondamentalement, cette question n'a pas été traitée. C'est-à-dire que ce qui est posé pour le fonctionnement de l'économie mondiale, si on veut un fonctionnement plus régulé, ça serait de donner des règles du jeu sur quelles sont, comment doivent évoluer les taux de change entre les grandes monnaies, c'est-à-dire le yen, l'euro et le dollar. Il n'y en a pas, et du coup, c'est l'affirmation de la primauté des intérêts de l'économie américaine sur le reste du monde. Et c'est peut-être ça qui domine le plus la conjoncture actuelle. C'est l'affirmation un peu impériale, on pourrait dire, consistant à dire on relance à tout prix, on est protectionniste quand nous ça nous arrange, on dénonce les accords de Kyoto quand ça nous arrange, etc. Et on baisse le dollar parce que ça nous arrange, et donc c'est croissance chez nous, et le reste, on s'en fiche. C'est-à-dire, il n'y a aucune vision de régulation un peu planétaire, de coopération pour essayer de trouver des systèmes qui ne reportent pas forcément sur les autres ces tendances récessives, mais organisent l'économie mondiale. Donc on est sur un fonctionnement potentiellement très chaotique et potentiellement très conflictuel entre l'Europe et les États-Unis.
Eh bien, c'était des sous et des hommes. On était bien en compagnie de Michel Husson. Si vous voulez retrouver Michel Husson, vous pouvez le faire sur son site. C'est http://hussonnet.free.fr. Si vous avez du mal à retrouver les coordonnées, eh bien, vous pouvez aller sur le site de Des sous et des hommes, www.dessousetdeshommes.org. Et à l'intérieur, vous trouverez les coordonnées précises du site de Michel Husson. Vous pourrez d'ailleurs à cette occasion réécouter un certain nombre d'émissions que j'ai faites avec lui, et en particulier une toute récente sur les retraites qui est très très intéressante, et du coup vous pourrez vous faire une petite doublette avec l'émission que j'avais faite aussi avec Jean-Marie Arribet sur le même thème. La semaine prochaine, nous écouterons Christophe Rameau sur la protection sociale et la sécurité sociale en particulier. À la semaine prochaine.